Chers frères et sœurs, vous l'avez entendu dans cette vision, dans la bouche de Jésus, des fins des temps, où il annonce si son retour en gloire, c'est en lui que l'histoire humaine trouve son aboutissement, son accomplissement, son issue. Jésus parle sous l'image du retour glorieuse du Fils de l'homme. Mais nous savons dans les évangiles qu'il parle souvent de lui-même comme le Fils de l'homme, image empruntée à une prophétie du prophète Daniel. Mais avant cela, dit Jésus, l'humanité entière passera par un temps de grande catastrophe. De telle ampleur, dit Jésus, que les hommes seront saisis de peur devant le spectacle qui ébranleront le monde. Le texte insiste que les forces de la nature seront profondément perturbées, ébranlées, la terre, la mer, le ciel. Et Jésus nous invite, dans une petite parabole, à reconnaître les signes des temps de la fin, comme on reconnaît les arbres qui commencent à fleurir au printemps qui annonce l'été. Tous peuvent lire ces signes de la nature. Ainsi, lirez les signes de ces fins de temps, nous dit Jésus. Et il ajoute aussi, vous l'avez entendu, préparez-vous au temps difficile, soyez vigilants, priez, veillez, ne fuyez pas dans des fêtes et des drogues ou dans les soucis du quotidien. Soyez éveillés, sobres, et tournez-vous vers Dieu pour mettre votre confiance d'abord en Dieu, parce qu'à lui la victoire finale appartiendra. Ces textes ne sont pas si évidents, je pense, à accueillir, à interpréter, à méditer. Comment il faut accueillir ce texte comme avec ces images effrayantes des catastrophes qui nous attendent? Est-ce qu'il faut l'entendre comme un scénario réel et possible de ce qui peut arriver à l'humanité, ou comme un langage biblique aux accents, on va dire, mythologiques ou eschatologiques, comme le prophète parle de la fin des temps? Mais ce langage avec des images qui sont dépassées pour nous aujourd'hui. Comment on prend au sérieux ces textes, là, dans la bouche de Jésus? Oui, je dirais pour ma part que ce sont des images symboliques, mais qui décrivent à leur manière, dans un langage biblique, en partie emprunté aux prophètes, une réalité qui peut arriver à l'humanité. Et disent à leur manière un scénario devenu possible pour l'humanité dans son ensemble. Que la fin de la vie humaine sur Terre peut devenir une réalité suite à des catastrophes qui impliquent toute l'humanité ou la vie sur Terre. Cette perspective-là que, peut-être il y a quelques décennies, l'humanité avait encore du mal à penser, ce que nous étions peut-être encore il y a 30-40 dans le scénario du progrès à l'infini de l'humanité, sont aujourd'hui des scénarios que des scientifiques nous disent qui deviennent possibilité pour l'humanité. Des scientifiques qui ont parlé à suite à l'invention de bombes atomiques, ce que l'humanité peut détruire la vie sur Terre. Et d'autres scientifiques de plus en plus nombreux qui nous avertissent, nous le savons, sur l'exploitation massive de la nature et des conséquences de plus en plus dramatiques que peut cela impliquer pour l'humanité. Que s'il y a réellement augmentation de la température de l'humanité qui fait que des températures peuvent monter jusqu'à 40-45 degrés. On a pu lire cela dans Le Monde cet été comme un scénario possible en 20-30 ans, jusqu'en France. Mais avec 45 ou 50 degrés, est-ce que la vie dans certains endroits est encore possible? Le grand philosophe scientifique Théodore Monod, protestant, a intitulé son dernier livre « Et si l'aventure humaine sur Terre échouerait ?» Et dans ce livre, Théodore Monod affirme que cette aventure humaine commencée il y a 2 millions d'années en Afrique, on le sait maintenant, peut s'échouer dans le ou les siècles à venir si elle continue, dit-il, sa course folle vers l'avant. S'il n'arrive pas à maîtriser ses propres démons de violence, de destruction de la planète, etc. J'insiste pas. Il semble que, quand j'étais encore à la faculté de théologie, de tels textes dans le Nouveau Testament ou dans la Bible, nos professeurs nous enseignaient que c'était un genre littéraire de l'apocalyptique juive qui avait son origine dans des temps difficiles du peuple juif, aussi au 1er siècle, sous plusieurs occupations, et que inutile, en quelque sorte, de l'appliquer à notre temps. À l'époque, je trouvais que mes profs avaient tout à fait raison de mettre ça dans la case de genre apocalyptique dépassé. Aujourd'hui, j'en suis beaucoup moins sûr. Et chaque fois, chaque année, c'est au moins ce dimanche, le premier dimanche de l'Avent qu'on nous demande à prêcher sur ce texte. Face à ce texte, je me dis, non, aujourd'hui, peut-être nous prenons conscience que ce que Jésus dit là peut être un scénario, une prophétie réelle de l'issue de la vie humaine sur Terre. Et même si ça nous dérange en quelque sorte, et que ce n'est pas facile de prêcher la bonne nouvelle à partir de cela, je pense aujourd'hui qu'il faut entendre cela. Trop longtemps, nous étions dans une idée confiante de progrès de notre société. Cette notion de il y aura un progrès toujours plus loin par la science, la technologie, de la civilisation sur... Mais ces temps sont derrière nous, nous le savons, de plus en plus. En quelques décennies, nous posons des questions que nos parents et grands-parents ne se posaient pas. Et même nos enfants grandissent avec cela maintenant, qu'il faut sauver la planète. Nos enfants regardent un film sur trois, sont des scénarios de catastrophes qui arrivent à toute la Terre, ou n'est-ce pas? Ils grandissent avec ces scénarios-là, à travers le film, c'est très normal pour des enfants aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a un risque dans tout cela, parce que est-ce que nous ajoutons pas la peur du lendemain, de l'avenir, en prêchant un pessimisme sur l'avenir humain? Notre monde est déjà assez angoissé devant son avenir, et ces jours-ci, beaucoup s'expriment à travers les gilets jaunes, cette angoisse devant leur propre avenir, la fin du mois, de manière très concrète. Des jeunes peuvent être angoissés devant l'avenir que la société leur offre, et ce n'est pas toujours du travail que cette société leur a à offrir. Donc il faut faire quoi? Mais nous, non, nous ne sommes pas appelés à prêcher et répandre la peur, mais de prêcher la bonne nouvelle. Et nous savons que Jésus, quand je lis l'Évangile, qu'il n'a jamais exploité la peur pour convertir les gens, comme font certains sectes, on le sait bien. Jésus n'a pas voulu que nous soyons des angoissés devant l'avenir. Jésus prêche la bonne nouvelle et nous invite à revenir vers Dieu et à fonder notre vie sur une confiance, ce qui est tout autre chose. Nous ne voulons pas non plus appliquer ces textes qu'on vient de lire à la lettre, comme certains pasteurs américains l'ont fait déjà depuis longtemps. Je me souviens que mon père avait un livre, on parle des années 80 par là, d'un pasteur américain qui savait exactement dire voilà ce qui se passe actuellement et voilà ce que dit le prophète Ézéchiel et voilà qu'à l'an 2000, qui est déjà passé, nous le savons tous. Et ce type de scénario a beaucoup existé, n'est-ce pas, et sans doute ce pasteur a rempli peut-être son église à l'époque ainsi. Non, ces textes sont en même temps une forme aussi d'image et de mythe qu'on ne va pas prendre exactement à la lettre. Mais sur le fond, il y a quelque chose à entendre. Et sur le fond, c'est surprenant et significatif que l'Église nous propose de méditer ces textes le premier dimanche de l'Avent. Ce temps où nous préparons à acquérir une fois de plus ce mystère de Dieu qui a visité notre histoire dans la vie de Jésus de Nazareth. Autrement dit, le Christ qui va venir est celui qui est déjà venu il y a 2000 ans. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour la manière que nous, chrétiens, nous voulons voir l'avenir et vivre les temps présents. Le regard du chrétien sur l'avenir se fait d'abord à partir du passé. Et son espérance, il la trouve en faisant mémoire. Notre vision de l'avenir est fondée sur un événement du passé, la vue du Christ mort et ressuscité il y a 2000 ans. Et le chrétien croit que cet événement du Christ mort et ressuscité pour toute l'humanité jette déjà une lumière définitive sur l'histoire humaine. Oui, le chrétien ose croire et affirmer que la lumière de ressuscité brille déjà sur notre histoire, quoi qu'il arrive, quel que soit le moment de crise ou de ténèbres que nous devions traverser. Ainsi, pour le chrétien, l'espérance est toujours plus forte que le pessimisme ou la peur. Il ose croire que Dieu, malgré tout, reste le maître de l'histoire et l'amènera à son terme. Je crois que c'est cela, la foi dans le Christ mort et ressuscité pour toute l'humanité. On peut se dire, est-ce que ce n'est pas un peu une espérance un peu illusoire, trop spirituelle? Mais le Christ est venu. Il a vécu. Il a montré un chemin possible de fraternité aussi parmi les hommes. Et nous croyons que ce chemin reste un chemin pour les hommes aujourd'hui, pour notre vie. Ce Christ a visité notre histoire. Il nous dit, relevez-vous, soyez debout, ayez confiance en Dieu. Quelle que soit la situation de votre vie que vous traversez. Et cette lumière de Dieu, qui est le Christ lui-même, et le chemin qu'il a vécu, est déjà une lumière que nous pouvons accueillir aujourd'hui dans notre vie, le Christ et son message. C'est chaque jour qu'il nous propose, qu'il nous appelle à choisir avec lui la vie, la confiance, la fraternité humaine. Et cela donne sens déjà à notre vie, aujourd'hui, pour celui ou celle qui sait l'accueillir aujourd'hui. La première parole que le Christ ressuscité a dit à ses disciples, les évangiles sont clairs là-dessus, c'est frappant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est le premier mot du Christ vivant. Celui qui a vaincu le mal et la mort. Et qui a dit que c'est Dieu qui a le dernier mot dans notre vie, dans la vie
des hommes. Dès lors, un chrétien ne peut pas se laisser gagner par la peur. Il y a tellement de peurs qui traversent nos sociétés actuelles, nous le savons, en Europe. Peur aussi d'être envahi par ceux qui viennent du Sud. Cette peur qui amène faire le repli sur soi, parce que la peur, presque biologiquement, physiquement, neurobiologiquement, amène à la crispation et le repli sur soi. Le Christ qui nous dit « n'ayez pas peur » nous invite à pouvoir continuer à souffrir aux autres, même ceux qui frappent sur notre porte en venant de loin, de l'Afrique, du Moyen-Orient. Redressez-vous, soyez des hommes debout, éveillés dans le temps qui est le nôtre. Comme le Christ lui-même. Le Christ, dès le début de son message, la première parole selon l'évangile de Marc que nous avons de Jésus, c'est « Le royaume de Dieu est proche ». Jésus lui-même a vécu dans ce sentiment que le temps se raccourcissait, qu'il y a une urgence, qu'il n'y avait plus un temps énorme devant. Peut-être qu'il s'est en partie trompé, que ça arrivait très vite. Mais sur l'échelle du temps, les 2000 ans qui nous séparent de Jésus-Christ, les 5 milliards d'années sur Terre, les dinosaures sont apparus quand on en fait une journée, 5 jours avant minuit, nous disent les scientifiques. Il y a 2000 ans, c'était quelques secondes à peine devant. La révolution industrielle était un dixième de seconde avant minuit. 2000 ans depuis Jésus sur les ciels du temps, est-ce si peu? Est-ce que Jésus a eu l'intuition profonde que l'humanité va vers la fin des temps? Ce Christ qui, devant ce temps qui se raccourcit, plante des arbres de l'espérance, de fraternité, qui guérit, qui fait du bien, toute sa vie est dans ce mouvement-là et nous dit « Toi, suis-moi ». Il faut terminer. Oui, ce texte nous invite à une lucidité sur le temps dans lequel nous vivons. À lire les signes du temps. Mais l'Évangile ne nous invite jamais au pessimisme, à la résignation, à la passivité, et c'est d'abord la vie de Jésus lui-même qui vivait dans cette perspective qui nous en est l'exemple si clair et éloquent, créateur d'un monde nouveau, plus juste, plus fraternel, même si le temps presse et se raccourcit. Jésus vit pleinement dans le présent, en même temps qu'il est tourné vers l'avenir de Dieu. Éveillé à l'amour pour les hommes et pour Dieu. Le chrétien se souvient de la victoire du Christ dans sa mort et sa résurrection, et cette lumière éclaire nos vies et notre vie collective. Nous le croyons, et nous croyons que cette lumière-là de Dieu ne peut pas s'éteindre, jamais. Cette lumière-là, nous voulons l'accueillir une fois de plus dans ce temps de l'Avent de Noël, pour nos vies et pour le monde, comme une confiance, une espérance de vivre dans ce monde incertain, qui peut se laisser gagner par la peur, et donc par le repli sur soi. Le Christ dit à chacun de nous, « N'ayez pas peur. Je suis avec toi, je suis avec vous. » Il nous dit aussi ceci, que l'avenir du monde, c'est lui, le Christ. Je crois aussi que l'avenir de ma vie, mon avenir, c'est le Christ en qui nous trouverons la gloire de Dieu qui a été manifestée en lui. Amen.
t'invite à chanter le cantique unique. Viens, Seigneur, ne tarde pas.